Au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont brandi hier des sanctions contre ceux qui entraveraient le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, mais aussi au Mali, deux pays membres de la CDAO qui ont connu des coups d'État cette année. Un sommet ouest-africain a eu lieu à Accra, au Ghana, après la rencontre virtuelle de la semaine dernière. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Bagan Sikoura, ainsi que sur les concertations nationales en Guinée avec John Linden. Au Mali, pendant ce temps, deux projets de loi d'amnistie pour les coups d'État d'août 2020 ont été adoptés hier. Nous aurons de Bamako notre correspondant Mohamed Danyoko. Au Nigeria, au moins 16 soldats et deux miliciens anti-djihadistes ont été tués dans une embuscade attribuée dans le nord-est au groupe de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ont indiqué jeudi deux sources militaires. L'attaque qui a eu lieu mercredi est l'une des plus meurtrières menées cette année par l'ISWAP contre les forces armées nigérianes qui peinent à vaincre une insurrection islamiste ayant fait plus de 40 000 morts en 12 ans. En Somalie, nouvel affrontement hier entre le président et son premier ministre. Claire Morin-Jibourg nous donnera les détails. Le premier épisode du virus de Marburg en Afrique de l'Ouest, une fièvre hémorragique presque aussi mortelle qu'Ebola, s'est officiellement achevé ce jeudi, 42 jours après l'identification du premier et unique cas en Guinée, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Le système COVAX, ayant revu à la baisse ses prévisions d'expédition de vaccins anti-COVID-19 vers les pays pauvres, l'Afrique va manquer de presque 500 millions de doses par rapport à l'objectif mondial de 40% de vaccinés à la fin de l'année, a regretté hier l'OMS. Jacques Aristide nous en parlera. Est-il nécessaire d'injecter aux Américains une troisième dose du vaccin anti-Covid de Pfizer pour mieux les protéger contre le virus? Une question qui divise. Le comité d'experts indépendants de la FDA, l'Agence américaine du médicament, se réunit ce vendredi. L'administration Biden a annoncé en août qu'une campagne de rappel des vaccins anti-Covid serait lancée à partir du 20 septembre pour tous les Américains ayant reçu leur deuxième dose 8 mois auparavant. Une décision qui a pris de court de nombreux experts prudents face aux possibles effets secondaires qu'engendrerait cette dose additionnelle et critique au moment où de nombreux pays n'ont encore eu accès qu'à un nombre très limité de doses. Le premier ministre haïtien, Ariel Henry, s'est défendu hier soir des soupçons émis contre lui dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, dénonçant un tapage motivé par des intérêts politiques et orchestré, selon lui, au niveau national et international, autour des conversations téléphoniques qui ont eu lieu la nuit de l'assassinat crapuleux, a-t-il dit, du président. Mardi, le procureur de Port-au-Prince avait demandé au juge chargé d'instruire le dossier d'inculper M. Henry au motif qu'il aurait eu des appels téléphoniques avec l'un des principaux suspects quelques heures seulement après l'attentat. La directrice générale du FMI, Krista Lina Yergueva, a fait pression en 2017 pour modifier un rapport de la Banque mondiale où elle était en poste à l'époque afin de ménager la Chine selon une enquête indépendante commandée par l'institution internationale et rendue publique jeudi. Madame Georgieva s'est dite en désaccord avec les conclusions de cette investigation. Les quatre touristes américains de l'espace ont passé leur première journée en orbite dans le vaisseau SpaceX, effectuant des recherches scientifiques et parlant aux patients d'un hôpital pour enfants malades du cancer après leur décollage de Cap Canaveral la veille. Trois astronautes chinois ont entamé ce jeudi leur voyage de retour sur Terre après une mission record de 90 jours sur le chantier de la station spatiale de Pékin. la suite de nos informations. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont brandi hier des sanctions contre ceux qui entraveraient le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, mais aussi au Mali, deux pays membres de la CEDEAO qui ont connu des coups d'État cette année. Les chefs d'État ouest-africains étaient réunis à Accra, au Ghana, après la rencontre virtuelle de la semaine dernière. Précision de Bagassi Koura.
À l'issue de la rencontre d'hier, la CEDEAO a maintenu la suspension de la Guinée de toutes ses instances jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État exigent la tenue des élections en Guinée dans 6 mois. L'organisation régionale a aussi brandi des sanctions ciblées impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD, de leurs familles et le gel de leurs avoirs financiers. Concernant le cas du Mali, les chefs d'État se disent préoccupés par la lenteur dans la préparation des élections prévues pour fin février 2022. La CEDEAO réitère sa demande pour un respect strict du calendrier devant conduire à la tenue effective des élections dans le délai non négociable de février 2022. Les chefs d'État donnent jusqu'à fin octobre à la junte malienne de fournir un chronogramme devant conduire aux étapes essentielles pour la tenue des élections de février 2022. La CEDEAO menace de sanctions ciblées, dont interdiction de voyage, tous ceux dont les actions vont avoir un impact négatif sur le calendrier de la transition tel qu'arrêté par la CEDEAO. Et enfin, concernant l'éventuel déploiement des hommes du groupe russe Wagner, les chefs d'État se disent très préoccupés par les conséquences certaines sur la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans l'ensemble de la région.
En Guinée, des patrons et représentants de l'industrie minière se sont dit rassurés sur la poursuite de leurs activités hier, après une rencontre avec le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, à Conakry. Les consultations doivent se terminer aujourd'hui, vendredi, John Linden.
Les échanges ont été prometteurs, a dit sous le couvert de l'anonymat un responsable pour la Guinée des Rusal, grand groupe russe spécialisé dans l'aluminium. Tout est stable, les activités continuent, c'est juste une phase transitoire que nous traversons, a-t-il dit, à l'issue de cette rencontre avec la junte au Palais du Peuple. Après les chefs de parti, les diplomates étrangers ou la société civile, le chef de la junte a poursuivi hier avec les patrons des compagnies minières les consultations engagées mardi pour définir le contenu d'une transition censée ramener les civils au pouvoir. « Nous sommes entièrement rassurés », a déclaré Frédéric Bouziguez, directeur général de la société minière de Boké, un important acteur du secteur de la bauxite. Dès le lendemain du coup d'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya s'est employé à rassurer tous les Guinéens et ses consultations doivent se terminer aujourd'hui.
Crise au sommet de l'État en Somalie, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed Di Farmadjo a retiré hier les pouvoirs exécutifs au premier ministre Mohamed Hussein Roble dans un nouvel épisode de tension entre les deux hommes. Claire Morin-Gibourg.
Pour le président somalien, le premier ministre a pris des décisions imprudentes pouvant ouvrir la voie à l'instabilité politique et sécuritaire et a violé la constitution de transition. Il a annoncé que ses pouvoirs exécutifs lui sont donc retirés, notamment ses pouvoirs de destitution et ou de nomination des dirigeants, et ce, jusqu'aux élections. Les deux hommes ont des relations tendues depuis plusieurs mois. Ces 10 derniers jours, ils se sont opposés à 2 reprises sur des limogeages et des nominations à des postes cruciaux de l'appareil sécuritaire. Élu en 2017, Farmajo a vu son mandat expirer le 8 février sans avoir pu s'entendre avec les dirigeants régionaux sur l'organisation d'élections. L'annonce mi-avril de la prolongation de son mandat pour 2 ans avait provoqué des affrontements armés à Mogadiscio, ravivant le souvenir des décennies de guerre civile qui ont ravagé le pays.
Monsieur Roble a répondu dans la soirée qu'il se conformait uniquement aux décisions conformes à la Constitution et qu'en conséquence, la déclaration illégale du président ne serait pas acceptée. Il a appelé M. Mohamed Abdullahi Mohamed à respecter la séparation des pouvoirs, à cesser de violer la Constitution et de saboter les tâches du gouvernement. Il a également demandé aux commandants des forces de sécurité de ne pas se mêler de la politique et de préserver l'état de droit. Le mécanisme COVAX, ayant revu à la baisse ses prévisions d'expédition de vaccins anti-COVID-19 vers les pays pauvres, l'Afrique va manquer de presque 500 millions de doses par rapport à l'objectif mondial de 40% de vaccinés à la fin de l'année. C'est le regret exprimé par l'OMS hier, Jacques Aristide.
COVAX va expédier en Afrique environ 150 millions de vaccins de moins que ce qui était prévu en raison de manque de doses. En tenant compte de ce déficit, 470 millions de doses de vaccins attendues sur le continent permettront de vacciner seulement 17% de la population, d'après le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Il en faudrait deux fois plus pour atteindre les 40%. Ce manque de vaccins intervient alors que l'Afrique a franchi cette semaine la barre des 8 millions d'infections. Machidizo Moeti, directrice Afrique de l'OMS, déplore que les pays riches s'emploient à écarter le COVAX du marché, privant ce mécanisme de doses adéquates. Selon elle, les immenses disparités en matière d'équité d'accès aux vaccins sont loin d'être comblées aussi rapidement qu'il le faut. Environ 95 millions de doses devraient être acheminées en Afrique via COVAX au cours de ce mois, mais le continent n'a pu vacciner que 50 millions de personnes, soit 3,6% de sa population, rappelle l'OMS. Le mécanisme de financement international COVAX entend permettre à 92 États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des pays plus prospères.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, la transformation du cacao en août a connu une hausse de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Selon le groupement des exportateurs de café et de cacao, le pays a transformé plus de 500 000 tonnes de cacao pour le compte de la campagne 2020-2021, un volume toutefois en léger repli par rapport à la saison précédente. Le Nigeria devrait connaître une croissance de près de 3% en 2021 selon le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele. L'économie est en nette progression depuis le deuxième trimestre. Le pays compte sur l'atteinte des objectifs de vaccination pour revitaliser sa croissance économique. Mais M. Emefiele a souligné que la croissance reste fragile. La fin d'une subvention sur les carburants suscite le mécontentement au Kenya, où le vice-président William Ruto a estimé que cette mesure était une erreur. La fin de cette subvention instaurée plus tôt cette année pour tempérer le renchérissement du coût de la vie a provoqué une hausse du carburant à la pompe, atteignant jusqu'à 6% à Nairobi. Les prix devraient encore augmenter avec l'entrée en vigueur le 1er octobre d'une taxe indirecte sur le carburant de près de 5%.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'ancien ministre kényan des sports Hassan Wario a été condamné à 6 ans de prison ou à payer une amende de près de 28 000 euros. Stephen Nswa, chef de mission de la délégation olympique du Kenya au JO de 2016 à Rio, a lui été condamné à une peine d'au moins 10 ans de prison ou à s'acquitter d'une peine d'amende de plus de 810 000 euros. Ils ont été reconnus coupables de détournement de fonds lors de cette compétition des JO de 2016. Monsieur Wario, ministre des Sports entre 2013 et 2018, et Monsieur Soa étaient deux des 6 responsables kényans poursuivis pour abus de fonction et malversation concernant une somme de près de 425 000 euros d'argent public détourné. Les 4 autres responsables, dont l'ancien secrétaire général du Comité national olympique kényan, Francis Kinyili Paul, ont été acquittés. En Europe, le premier gros score de la phase de groupe de la Ligue Europa est venu de Séville, où le Betis a fait parler la poudre contre les Écossais du Celtic Glasgow, 4-3. West Ham est allé gagner chez le Dynamo Zagreb, 2-0. Le Bayer Leverkusen, lui aussi à domicile, est venu à bout de Ferencváros, 2-1. Même score pour l'Étoile Rouge à Belgrade contre les Portugais de Braga. Les Belges de Genk ont gagné à l'extérieur sur la pelouse du Rapide de Vienne 1-0. L'Olympique de Marseille a failli débuter sa campagne européenne par une victoire, mais s'est fait rejoindre en fin de match par le Lokomotiv Moscou, pourtant réduit à 10-1-1. La Lazio Rome a trébuché sur la pelouse des Turcs de Galatasaray, vainqueur 1-0. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la suspension pour 4 ans de l'ancien entraîneur américain d'athlétisme Alberto Salazar, accusé entre autres de trafic de testostérone. L'ancien entraîneur du quadruple champion olympique britannique Mo Farah a été sanctionné en octobre 2019 à un énorme scandale qui avait entraîné la fermeture de l'Eurogame Project, un groupe d'entraînement de très haut niveau créé en 2001 dans le nord-ouest des États-Unis. Salazar, 63 ans, a été accusé de trafic de testostérone, d'avoir injecté à ses athlètes de l'acide aminé au-delà des doses autorisées et d'avoir tenté de s'opposer à la collecte d'informations par l'agence américaine antidopage USADA.
Merci, Yacoub. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seboulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le Conseil national de transition vient d'adopter deux projets de loi d'amnistie concernant des actions qui ont conduit au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta et celles relatives à la mise à l'écart du premier président de la transition, Bandaou, et de son premier ministre, Mokhtar Ouane. Reportage de Mohamed Danyoko.
C'est par 99 fois que les membres du Conseil national de transition ont voté hier jeudi 16 septembre les lois portant amnistie des faits en lien avec la démission du président de la République et des faits survenus et ayant entraîné la démission du président de la transition Bandaou et son premier ministre Mokhtar Ouane. Pour le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, venu défendre ces textes de loi, il s'agit, en adoptant ces lois, de permettre aux autorités de la transition de travailler en toute sérénité.
Il fallait prendre des dispositions pour permettre aux nouvelles autorités de gérer les affaires publiques dans la quiétude, sans avoir peur d'être perturbées par quoi que ce soit. Donc la loi d'amnistie s'inscrit dans ce cadre-là. Donc il s'agit d'accorder le pardon aux actes qui ont pu être posés pendant cette période et qui pouvaient recevoir la qualification d'infraction.
Si les arguments avancés par le ministre de la Justice ont convaincu la majorité des membres du Conseil national de transition, cela n'a pas été le cas pour deux d'entre eux, dont la journaliste Ramata Djaouri.
En tant que démocrate, je ne trouve pas normal que la justice ne passe pas quand il y a des actes, certains actes qui sont commis. Et je pense que nous sommes en train de prendre un mauvais chemin, puisque nous avons déjà eu l'occasion d'avoir ce type de loi. Et on va se retrouver avec des personnes qui ont commis des actes. Et un État, le ministre de la Justice vient de nous le dire, qui va s'engager à assumer les conséquences financières des actes commis par certaines personnes.
Cette loi d'amnistie, selon le président de la commission loi institutionnelle, Souleymane D, ne s'applique pas à un groupe en particulier.
L'amnistie concerne essentiellement les militaires qui sont intervenus et bien entendu les personnes ayant apporter leur concours. On ne parle ni du M5, ni d'aucune autre composante, comme à l'article 13 de la charte.
Rappelons que les lois d'amnistie ont été votées à 99 fois pour, 2 contre et 2 abstentions. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de l'augmentation alarmante des cas de violences sexuelles et de celles basées sur le genre. Des incidents qui sont multipliés durant l'état de siège décrété par les autorités congolaises il y a 4 mois. Parmi ces organisations figure l'organisation Sauti ya Mama Mukongo Mani, qui révèle que la plupart de ces violences sont commises par des hommes armés. Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma, nous donne davantage de détails.
L'organisation Sauti ya Mama Mukongo Bani, une organisation qui lutte pour les droits des femmes, a récemment publié le nombre des cas de violence dans les différents territoires du Nord Kivu et a dénoncé une augmentation de la violence par rapport à la période où la province était dirigée par des civils. Nelly Lumbulumbu en est sa présidente.
Nous avons senti qu'il y a eu recrudescence des violences. Et là, je vais parler des violences sexuelles et des violences basées sur les genres. Nous pensons que ce sont des situations que nous devons décrire. Je vais donner aussi ici les cas, plusieurs cas de violences sexuelles qui ont été reportés par nos animateurs de terrain. Et je parlerai au niveau de Rutshuru de plusieurs cas, plus de 10 cas de violences sexuelles. À Nyiragongo, nous avons obtenu 8 cas. À Goma, nous avons obtenu 2 cas. Ce sont des choses que nous n'avons pas vues pendant la période normale.
La meilleure solution pour limiter les violences sexuelles serait de mettre fin à l'état de siège et de remettre le pouvoir entre les mains des civils, selon certains militants des droits de l'homme, comme Espoir Mwinuka, qui pense qu'au lieu de ralentir, l'état de siège a aggravé les taux de violence qui a atteint 80% en 2021.
Aujourd'hui, la violence a monté au créneau. Maintenant, la situation commence à être pire qu'avant. La violation grave des droits de l'homme, nous sommes en train d'estimer que ça montait même à plus de 80% en 2021.
Passimu Balama, militante des droits de l'homme, appelle le gouvernement congolais à fournir encore plus d'efforts pour rétablir la paix au plus vite, ce qui permettra de lutter contre ces violences subies notamment par les femmes et les enfants.
Je voulais en fait faire une sonnette d'alarme par rapport à la situation de violation de droits humains qui hausse en cette période où l'État congolais a décrété l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Je voudrais appeler ici les autorités congolaises à prendre conscience du fait que nous, en tant que citoyens et citoyennes, nous avons besoin de la paix. En tant que femmes, en tant que maman, nous avons besoin de la paix.
Le lundi 13 septembre, le président congolais Félix Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil national de sécurité pour évaluer l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis mai 2021. Les nouvelles orientations issues de cette réunion n'ont pas encore été dévoilées. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique. Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Togo vient de prolonger de 12 mois l'état d'urgence sanitaire suite à la recrudescence de nouveaux cas de coronavirus ces dernières semaines. L'accès aux bâtiments administratifs est désormais soumis à la présentation d'un pass vaccinal contre le Covid-19. Et les Togolais se pressent en nombre devant les centres de vaccination. Jacques Aristide.
Dans la cour du centre médico-social de Douma-Cessé, un quartier populaire de Lomé, une longue file est visible en milieu de matinée. Christiane Lena est étudiante dans la capitale togolaise.
Je suis venue me faire vacciner aujourd'hui suite à l'annonce du gouvernement qui a fait sortir un communiqué disant que ceux qui n'avaient pas de passe sanitaire ne pourraient pas avoir accès aux services publics. Si vraiment s'il n'y avait pas eu ce communiqué, je ne pensais pas me faire vacciner.
Comme ailleurs sur le continent, la défiance à l'égard du vaccin est répandue au Togo, pays confronté à une nouvelle flambée des cas de coronavirus. Dans la seule semaine du 27 août au 3 septembre, 15 malades sont morts, pratiquement tous non vaccinés. Le docteur Kofi Agbetiafa est le directeur préfectoral de la santé du Golfe.
Donc depuis le début de la pandémie au Togo, nous avons plus de 22 000 personnes dépistées positives à la Covid et plus de 200 décès déjà. Et c'est assez alarmant pour un petit pays comme le Togo.
Une situation qui a donc amené le gouvernement à prolonger d'un an l'état d'urgence sanitaire et imposer la carte vaccinale. Une carte devenue un sésame précieux, exigé presque partout. Honoré Yao, 21 ans, est étudiant à l'université de Lomé.
J'ai déjà fait mes passeports. On nous a demandé d'amener les fiches de vaccination avant d'avoir accès
et au bureau et de l'agence de passeport à Lomé. Donc, je suis venu pour prendre mon première dose.
Autre mesure, les lieux de culte, bars et discothèques sont fermés et les mariages, manifestations culturelles, sportives et politiques interdits pendant un mois, tout comme les funérailles. Ce qui provoque des graissements de dents pour des opposants. Le gouvernement ne sait fonctionner que par la force. Et au sujet du pass sanitaire, il est incongru, disent-ils, de l'imposer pour accéder aux locaux de l'administration publique. C'est même anticonstitutionnel, selon eux. Mais le gouvernement est catégorique. L'objectif est d'agir efficacement pour protéger la population. À ce jour, 450 000 personnes ont été vaccinées. Il vise plus d'un million de vaccinés d'ici à la fin de l'année. Pour la première ministre Victoire Toméga-Dogbé, le Togo doit maintenir le cap, voire accélérer.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé. Sur 102.3 FM.
Les Russes ont commencé à voter ce vendredi aux élections législatives et locales avec l'ouverture des premiers bureaux de vote dans l'Extrême-Orient. Ces élections se dérouleront du 17 au 19 septembre dans ce que l'opposition dit être une atmosphère de répression où un certain nombre de candidats non alignés avec le parti au pouvoir ont été exclus. Reportage de Ricardo Marquina à Moscou. Le récit est de John Linden.
Les analystes qualifient ces élections de cruciales. Le parti au pouvoir, Russie Unie, visant à maintenir sa majorité écrasante à la Douma d'État, le Parlement russe. Le sondage fait suite à des mois de pression contre l'opposition libérale et démocrate dans les rues et contre les médias indépendants sur Internet, rend les militants politiques profondément pessimistes. Parmi eux se trouve Vladimir Kara-Murza, un adversaire de premier plan du président russe, Vladimir Poutine.
C'est même discutable si on peut parler de l'opposition en Russie. Vous savez, opposition est un terme associé à la démocratie. L'opposition siège généralement dans les parlements ou dans les studios de télévision, peut participer aux élections. Dans notre pays aujourd'hui, les principaux opposants à ces régimes sont morts ou en prison ou en exil.
Le soutien populaire à Poutine reste particulièrement élevé. Un sondage du Levada Center révèle qu'il a un taux d'approbation de 65%. La lutte politique pour les sièges au Parlement se déroule entre le parti de Poutine et les communistes ou les nationalistes radicaux, des partis que de nombreux observateurs indépendants considèrent comme systémiques ou une façade pour maintenir l'image démocratique du pays. Anton Orek, analyste politique.
Nous avons actuellement deux partis communistes à la Douma, LDPR et Fer Racha. La Douma est-elle pour autant devenue un lieu de discussion? Non, depuis longtemps. Non, depuis déjà plusieurs sessions.
Malgré les pressions exercées contre des candidats critiques à l'égard du gouvernement, le seul espoir de l'opposition se trouve chez les partis libéraux comme Yabloko, le Parti démocrate russe et certains candidats indépendants qui ont réussi à participer à ces élections. L'analyste politique Boris Kargilevski dit qu'il reste la voix de l'opposition alors que tant d'autres ont été réduits au silence.
Le seul point positif des élections, c'est la campagne, parce que peu importe comment ils comptent, peu importe comment ils votent, cela ne compte pas. L'important est qu'au moins vous puissiez parler.
Les inquiétudes concernant une possible fraude sont répandues. L'opposition espère une participation massive comme meilleure défense contre toute tentative de truquer le vote. Kirill Goncharov, du parti Yabloko.
S'ils essayent de le faire, la légitimité de la Douma sera nulle. C'est pourquoi il est nécessaire de mobiliser nos supporters.
Mais les premières indications font croire à une faible participation électorale, avec peu de candidats de l'opposition en lice et une apathie des électeurs généralement élevée. De grands changements politiques en Russie semblent peu probables cette fois-ci.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.